on dépend de quelqu'un qui est plus haut que nous. Dieu ne nous a pas fait complet. Il nous a fait pour avoir besoin des autres et besoin de l'autre qui est tout en haut dans le ciel. Sinon, nous dirions comme Pharaon qui se croyait tout puissant, qui est Dieu pour que j'obéisse à lui ? Nous avons besoin de lui, comme l'enfant a besoin de sa mère et de son père. Je prie le Seigneur afin qu'il nous ouvre l'esprit sur cette parabole que le Christ nous a laissée dans l'évangile de Luc. Je prie avant la lecture. Enseigne-nous, Seigneur, ton amour pour que quand la terre tremble, quand la vie chancelle, que nous puissions dire toujours « Le Seigneur est mon aide ». Le Seigneur est mon abri, mon appui. Enseigne-nous, Seigneur, cette présence invisible à nos yeux, mais sensible à nos cœurs. Tu es avec l'être humain, tu es avec nous. Et nous voulons apprendre cet après-midi le chemin qui mène vers toi, ce chemin qui part de notre cœur et qui va vers ton cœur. Seigneur, réponds à nos prières, car nous parlerons sur la prière, fortifie notre foi, notre attente, notre espérance. Merci de toucher nos malades au milieu de nous. Merci, merci Seigneur pour ta parole. Amen. Mes amis, frères et sœurs, nous ouvrons la Bible dans l'évangile selon Luc. 4 évangiles, 4 témoins qui ont raconté chacun l'évangile, la nouvelle du Christ qui visite la terre. Luc chapitre 18, verset 1er. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit: il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Elle avait donc un adversaire. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même: quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, c'est pas rassurant pour un juge, hein, il se moque de tout le monde, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, me dérange, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge inique. Vous avez bien entendu? Afin qu'elle ne vienne pas me casser la tête. Et Dieu, dit le Seigneur, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Vous dites amen à la lecture ou amen à la question du Christ? C'est à vous de répondre. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous avez compris cette histoire? Cette veuve qui est toujours dans la salle d'attente du cabinet du magistrat. Et à chaque fois que la porte s'ouvre, parce qu'un client entre ou une cliente sort, chaque fois que la porte s'ouvre, « Monsieur le juge, j'ai une question à vous poser. Monsieur le juge, ça fait 2 ans que je viens. Il faut que je vous parle de ma difficulté. » Et le juge, imperturbable, dans son emmurement, « Je n'ai d'égard pour personne », il répond toujours « Non, Votre affaire ne m'intéresse pas. Qu'avait-elle, cette femme ? J'ai toujours imaginé deux choses. Peut-être un problème de voisinage. Il y a un mètre carré qui est passé chez le voisin, c'est pas normal. Vous connaissez un peu cela, non ? Ou alors un problème de succession. Parce que c'est ça qui nous fait démarcher auprès du juge. Et cette femme a toujours la porte fermée. Et cette histoire nous montre tous les chemins fermés de notre vie. Pas seulement le chemin de la mer Rouge, vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël, qui était, le chemin était barré par la mer Rouge. Il ne pouvait pas quitter l'Égypte. Mais je pense au chemin fermé parce que nous sommes malades, parce qu'il y a eu une séparation tragique dans la famille, parce qu'il y a eu une espérance qui nous a trompés, qui s'est retournée contre nous comme un arc trompeur. Je pense à tout ce qui ferme l'horizon, tout ce qui ferme la joie du lendemain, tout ce qui ferme la fraîcheur de nouveaux matins. Certains n'attendent plus rien de l'avenir, du lendemain. Mais à travers cette histoire où il n'est pas question d'une femme croyante, forcément, c'est une veuve qui se démène, qui se débat. À travers cette histoire, Jésus veut nous dire que le ciel est ouvert. Si le chemin est fermé, le ciel est ouvert. Parce que ce juge a répondu et Jésus dit, à plus forte raison, Dieu vous répondra. Un petit-fils d'Abraham, ce grand croyant, ce père des croyants, a connu une crise dans sa vie, il s'appelle Jacob. Et puis il a quitté la maison, il a quitté la terre de ses parents. Une crise, une fugue. Et en partant, il ne savait pas ce qui allait se passer. Un soir, couché sur la terre, il a vu le ciel qui s'ouvrait. Jamais vu ça, mais ça nous aide à nous qui sommes peut-être abattus, couchés sur la terre aussi. Et il a vu le ciel avec une porte qui s'ouvrait et une échelle qui descendait vers la terre comme pour dire « La porte est ouverte, ton chemin est compliqué, ton chemin se ferme, mais le ciel est toujours ouvert. » Et c'est là que je voudrais vous dire ce matin, cet après-midi, le Seigneur a son cœur ouvert pour vous écouter. Cette parabole, car c'est une histoire de juge, de femme, de veuve, cette parabole, elle nous montre tous ceux qui sont rejetés par la vie moderne. Regardez bien cette veuve, je la vois toujours un peu courbée, avec comme ma grand-mère un tablier gris. J'ai l'impression que j'ai toujours connu ma grand-mère en gris. Je la vois ainsi, cette femme, seule et qui est devant un rejet de la société. Vous n'avez pas cette impression parfois d'être obligé de descendre, de ne plus suivre parce que une société vous rejette, une pensée qui devient de plus en plus unique ne nous accepte pas. Nous pourrions avoir la même, je pourrais raconter mon histoire, votre histoire, en racontant la parabole de la veuve. Et parfois, je dis avec le prophète Ézéchiel, « Seigneur, nos mains sont affaiblies, on ne tient plus rien, on ne s'accroche plus à rien, nos genoux fondent en eau », disait Ézéchiel. Ça veut dire on n'a plus de force pour marcher, on n'a plus de force pour se battre. L'or et l'argent ne peuvent pas nous sauver, c'est vrai. L'eau qui monte dans les rues du Morbihan, vous voulez mettre de l'or et de l'argent pour arrêter l'eau ? Vous ayez des tonnes d'heures pour arrêter l'eau complètement, mais rien ne peut arrêter certains événements, pas l'heure, pas l'argent. Et le prophète dit, l'heure et l'argent ne peuvent pas nous sauver, ils sont incapables de rassasier l'âme. Des gens se suicident sur des tas d'or et d'argent. Un jeune homme s'est suicidé un jour sur ses livres de classe parce qu'il avait échoué un examen. cette veuve, elle est comme une incarnation du courage que vous pourriez avoir aujourd'hui, de la foi qui est une ouverture à l'amour de Dieu. La foi, c'est dire je crois que je compte pour toi, je crois que je ne passe pas inaperçu devant toi, je crois que mes appels, même s'ils sont cachés, secrets, ils résonnent à tes oreilles, ils crient à tes oreilles. Elle aurait pu être découragée. Pendant longtemps, il refusa. Combien de temps ? Peut-être 3 semaines, peut-être 3 ans. Elle aurait pu être découragée par ses adversaires. Elle a des gens avec qui elle est en conflit, à cause peut-être d'un terrain qui est mal partagé. Elle aurait pu être découragée aussi par l'injustice. Elle avait raison, cette femme. L'injustice qui parfois nous décourage, nous déconcerte. Nous sommes victimes d'injustice. Elle aurait pu être découragée par la solitude. Elle n'a plus de mari, certes, mais où sont ses enfants ? Elle n'a peut-être pas d'enfants. Seule face à tout. Seule face à un homme intransigeant. Puis elle aurait pu être découragée par le juge corrompu. Elle aurait pu dire, bah, puisque c'est comme ça, j'arrête. Je ne continue pas de frapper à sa porte, puisqu'il me dit non à chaque fois, depuis des dizaines de fois. Un juge qui ne craint pas Dieu, qui ne craint personne. Il n'est pas dit qu'il ne croit pas. Il a dit, ce juge, quoique je ne craigne pas Dieu. Et quand on ne craint pas Dieu, on finit par ne craindre personne. Et on finit par ne respecter personne. Je me suis toujours posé la question, comment un tel personnage existait au temps de Jésus ? Bon, ce personnage, il est moderne quand même, non ? C'est un moderne, ce juge. Il profite bien des gens, de la vie, et les petites affaires, les petites choses, les broutilles, il ne s'en occupe pas. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui existe a toujours existé. C'est l'Ecclésiaste qui le dit. Et des gens comme cela, qui n'ont ni Dieu ni maître, il y en a toujours eu. Mais quand on n'a pas Dieu pour père, alors on n'a pas de frère et on n'a pas de sœur. J'avais un père, donc j'avais des sœurs et des frères, des sœurs. Si on n'a pas un père, on n'a pas de frères et sœurs. Donc les autres ne comptent pas. La veuve, qu'elle est naïve, vous ne trouvez pas qu'elle est naïve ? Porte fermée, il faut qu'elle évacue le cabinet du magistrat, elle gêne les clients, elle continue, elle espère. Elle nous donne une belle leçon, cette femme qui ne se déplace pas pour chercher Dieu, elle ne va pas faire une prière à Dieu, elle va simplement faire régler une affaire quotidienne, une affaire de la vie. Mais Jésus va s'en servir pour vous dire, regardez sa persévérance, regardez son espérance, sa ténacité. Jésus disait, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. La persévérance vis-à-vis de Dieu, c'est de l'amour. On sait qu'il va répondre. C'est une confiance. On sait que Dieu ne peut pas nous rejeter. La persévérance, c'est une attente. Dieu va faire quelque chose. C'est une recherche. C'est ouvrir son cœur à un amour magnifique qui ne pourra jamais faire défaut, comme un père ne pourra jamais faire défaut, en principe, à son enfant qui est malade et qui pleure. Un jour, elle marque le but. Applaudissements de tout le quartier. Le juge dit oui. Tout le quartier a dit alléluia. Ça valait bien un bel alléluia, non ? Le juge a cédé. Il a cédé pas parce qu'il l'aime, il n'en peut plus. Il a cédé parce que il n'y a rien à faire. Cette femme, elle va rester là 100 ans. Elle va rester là tous les jours. Il a cédé parce qu'elle lui casse la tête. Parce qu'il est énervé. Parce qu'il est lassé. Parce qu'il est fatigué. Et Jésus dit juste après, Et Dieu ? Vous ne pensez pas que vous pourriez aller le déranger un peu plus souvent ? Lui qui a une capacité de nous aimer, de nous aider, de nous entendre, exceptionnelle. Il entend les murmures secrets de notre cœur. Vous ne pensez pas que vous pourriez frapper un peu plus à sa porte ? Il a pris deux extrêmes, là. Il a pris un juge qui n'a aucune crainte des autres ni de Dieu, et puis il a pris Dieu de l'autre côté. Alors là, ce sont les deux extrêmes. Alors il a l'air de dire, puisqu'un homme peut faire ça, vous ne trouvez pas que Dieu pourrait faire plus ? Comment priez-vous ? Recherchez-vous le Seigneur dans vos souffrances ? Vous vous souvenez-vous que Dieu est un Père qui donne, ne donnera jamais une pierre à son fils ? Quand le fils dit « Papa, je veux du pain », jamais mon Père m'a fait ça. Et votre Père ? Ce n'est pas Dieu qui a jeté le caillou sur le train. Hein. Ce n'est pas Dieu qui jette des cailloux. Ce n'est pas Dieu qui donnera un serpent à son enfant si l'enfant lui demande un œuf, ni un scorpion s'il demande un poisson. Dieu, dit la Bible, est plein d'amour pour ceux qui l'invoquent. Il aime ceux qui le recherchent. Il aime ceux qui se mettent en marche pour dire « Seigneur, ma vie est bousculée, ma vie est comme une coquille de noix sur l'océan, je ne sais plus quoi faire, viens m'aider. » Dieu aime ceux qui le cherchent, ceux qui le prient, ceux qui frappent à sa porte. Ayez recours à Dieu. La Bible dit « Cherchez continuellement sa face. » Même quand les choses paraissent simples, évidentes, faciles, cherchez le Seigneur. Appuyez-vous sur lui. Souvenez-vous de tous les prodiges qu'il a fait dans les évangiles, dans la Bible. Et dites-vous, ce Dieu-là, il a fait ça pour vous, pour nous dire, c'est la même chose pour vous. Dieu ne change pas. Dieu n'a pas de variation. Dieu n'a pas d'ombre. Le soleil qui tourne nous donne une ombre qui tourne. Dieu n'a pas d'ombre qui tourne. Il est toujours le même. Comment allons-nous chercher le Seigneur ? Pensons-nous à lui ? Avons-nous conscience que notre vie sans lui est une lutte sans lendemain, un combat perdu d'avance ? Dieu intervient-il encore ? Voilà la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Après un 20e siècle catastrophique, après une crise, après un déclin de la mentalité, un déclin de la société, Dieu intervient-il encore ? David disait, « Seigneur, ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me font la guerre sans cause. » Alors quand on voit des gens qui nous font la guerre, on se dit, « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais ? Tu permets, tu laisses faire, qu'est-ce que tu fais ?» Cette femme, elle pouvait dire cela, et David l'a dit, et d'autres l'ont dit. Le mal déborde comme un fleuve. On sait ce que ça veut dire aujourd'hui, hein, déborder comme un fleuve. Qu'un Perlet, qu'un Morlaix. Le mal déborde comme un fleuve. Et on se pose la question, Dieu intervient-il ? Car Dieu est immensément silencieux. Il ne crie pas dans les rues. Dieu est très proche de chacun, mais très silencieux. Mais la voix du Christ résonne dans cette histoire. Elle murmure à notre cœur, mais avec une voix terriblement douce, mais forte. Ne vous lassez jamais de demander. Ne vous lassez jamais de chercher. Car moi-même, je suis à votre recherche. Chers amis qui êtes venus aujourd'hui, demandez à Dieu. Attachez votre cœur à ses promesses. Dirigez votre pensée vers lui. Même quand toute l'histoire semble finie, des histoires semblent terminées, il y a des situations qui semblent closes, conclues, achevées, on ne pourra plus rien faire. Attachez votre cœur à lui. Confiez-lui vos confidences. Dites le fond de votre cœur que vous n'auriez peut-être pas le courage de dire à votre femme, à votre mari, à vos enfants. Dieu s'occupe de nous comme un père s'occupe de ses enfants, et mieux encore. Il n'y a pas de secours automatique. Souvent, les gens attendent cela. Ils se disent, si Dieu existe, ça ne doit pas être comme ça, ça doit être comme ça, automatiquement. Il n'y a pas de secours automatique. Il faut se mettre en route, comme la femme qui frappait à la porte. La route part de ton cœur, mon ami. Et la route, c'est la route de la prière et de la foi. Quand il y a eu la tempête dans la barque avec Jésus sur le lac de Tibériade, et que l'eau rentrait dans la barque et que la barque était pleine d'eau, et que les apôtres devaient sentir la barque qui commençait à s'enfoncer, c'est écrit dans l'Évangile, et que dans cette barque, sur le coussin, un petit peu plus haut, à la poupe, il y avait Jésus qui dormait, on se serait posé la question, mais puisque Jésus est là, ça ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas se produire. Ce n'est pas automatique. Il faut réveiller Jésus. Il faut réveiller sa foi. Il faut prier Jésus. Et Jésus, dans le désordre actuel du monde et des familles, dans le désordre des santé qui chancelle, des mentalités qui s'interrogent, Jésus nous dit d'une manière magnifique dans ce vacarme de moquerie sur Dieu, n'a jamais tant injurié Dieu, injurié l'Église. Il nous dit, priez sans jamais vous relâcher, parce que Dieu est un Père qui donne de bonnes choses à ses enfants. Amen. Priez, cherchez-le sans vous relâcher. Je prends un exemple. Très longtemps, il y a des siècles, Jérusalem, cette ville biblique très connue, était entourée de centaines et de milliers de soldats qui voulaient détruire Jérusalem, détruire les habitants de Jérusalem, détruire les maisons et le temple. Et le roi de Jérusalem, Josaphat, il s'est jeté à genoux et il a prié Dieu. Il a dit, Seigneur, n'est-ce pas toi qui as en main toute la force, la puissance? Qui peut te résister? Regarde nos ennemis. Nous sommes sans force, mais nos yeux sont sur toi. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. La prière, la recherche. On s'ouvre à l'intervention, on ne sait pas comment, de Dieu. Le peuple était tous en prière. Et tout à coup, il y a eu un homme qui s'est levé, il s'appelait Jocaziel, comme un pasteur, qui a pris la parole et qui a dit, ce n'est pas vous qui combattrez dans cette histoire, ce sera Dieu. Et vous verrez la délivrance que le Seigneur vous accordera. Le lendemain, ils sont partis à la guerre parce qu'il fallait que ces gens-là déménagent, tous ces ennemis qui entouraient Jérusalem. Vous savez comment ils sont partis? En chantant des cantiques Alléluia. Ils sont partis en chantant la miséricorde de Dieu dure toujours, sa bonté dure toujours, amen, amen. Ils sont partis en chantant des cantiques avec la chorale. La chorale était en tête face à la guerre. On n'a jamais vu ça. Mais je vais vous dire, je ne comprends pas très bien tout. Je ne connais pas Dieu dans tout ce qu'il fait. Mais je vois ce qu'il fait. Dieu a mis une embuscade contre les ennemis qui sont partis tous en déroute parce que le Seigneur est intervenu, parce que Dieu entend notre prière. Amen. Et nous, mes amis, vous ne croyez pas qu'on pourrait faire la prière du prophète Joël qui disait, Seigneur, notre figuier est en morceaux. Vous n'avez pas de figuier chez vous. Non, vous n'avez pas un jardin de figuier. Un figuier qui est en morceaux, ça veut dire ben c'est tout le travail d'une vie qui s'est cassé. Quand on casse un arbre, ça veut dire c'est 50 ans, 60 ans qui sont terminés. Le figuier est en morceaux, ça veut dire notre travail de toute la vie est en morceaux. Notre espérance est en morceaux. Tout ce qu'on a construit dans la famille avec le mari, les enfants, la femme, tout est en morceaux. Un figuier en morceaux, ça veut dire beaucoup de choses dans la Bible. Seigneur, notre figuier est en morceaux. Comment on va pouvoir réparer? Vous pensez que ça se répare un figuier? quand il est cassé en mille morceaux. Vous pensez que ça se répare une vie quand le mari est parti ou que les enfants vont mal? Vous pensez que c'est facile de réparer la vie? Alors Seigneur, notre figuier est en morceaux et on a l'impression, Joël le disait dans la Bible, ce prophète, que les dents de la lionne, la mâchoire du lion nous détruit. On a l'impression d'être mangé, être dévoré par quelque chose, quelqu'un de plus fort que nous, qui est comme un chef d'orchestre qui mène la danse et qui conduit les êtres humains à se demander mais pourquoi nous vivons ? Qui mène la danse ? Jésus dit, priez sans vous relâcher. Tenez-vous devant le Seigneur. Ayez une attitude d'ouverture à l'intervention mystérieuse de Dieu. Priez sans vous relâcher. En conclusion, le Seigneur n'a pas laissé les gens repartir comme ça. Hein. Je ne vais jamais au cinéma, une fois tous les 30 ans. Mais dès que c'est fini, on voit le générique qui apparaît sur l'écran et puis tout le monde s'en va. Quand le film est bouleversant, les gens restent un peu. C'est fini, après on s'en va puis on retrouve ses activités. Jésus leur pose une question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre comme cette femme? Ça veut dire, le Christ reviendra un jour. Mais il ne s'agit pas cet après-midi de parler de son retour. Vous savez, les gens, quand ils parlent du retour de Jésus, ils font des calculs pour savoir le jour, le mois, l'heure, la minute, l'endroit, comment, pourquoi. La question la plus importante, dans la venue de Jésus qui peut être demain, parce que demain nous pouvons mourir aussi. La plus importante question, c'est le Seigneur trouvera-t-il la foi dans ton cœur ? Voilà. Le Seigneur trouvera-t-il la foi dans ta maison, dans ta vie, quand il viendra te chercher sur la terre, car il viendra un jour. Alors il faut répondre. C'est la question la plus importante, parce que par notre foi, Dieu nous sauve. Il ne nous sauve pas parce que nous faisons des choses. Ce serait tellement insuffisant, tellement incomplet, tellement imparfait. Puis Dieu a décidé de faire autrement. Nous, on pense qu'on pourrait payer Dieu, on pourrait plaire à Dieu d'une certaine façon. Dieu dit non, laissez tout ça tomber, faites-moi seulement confiance et je vous sauve. Faites-moi confiance et je vous tiendrai dans la vallée de la mort et je vous ferai entrer dans ma maison céleste. Faites-moi confiance. C'est la foi. La foi qui sauve, parce que Dieu nous aime. La foi, c'est savoir qu'on vient du Christ. C'est savoir qu'on va vers le Christ. Personne ne se donne la vie. La vie vient de plus haut que nous. Elle vient de nos parents déjà, de nos grands-parents. Et puis après, on ne sait plus la suite. Mais ça vient d'un don de Dieu. Dieu nous a créés. Une rivière a forcément une source. Il y a de l'eau de pluie, certes, mais toutes les rivières ont besoin d'une source qui n'arrête pas. Et Dieu n'arrête pas de nous donner la vie. Et la foi, c'est savoir, c'est dire oui, c'est comme cela, et nous venons de Dieu et nous allons vers lui. Et tous nos efforts humains ne pourraient pas suffire pour plaire à Dieu. Est-ce que quand vos enfants vous demandent quelque chose, vous leur demandez de faire leurs preuves, de passer des tests, de passer des épreuves? Ah, tu veux du pain? Ah, tu veux du pain? Attention. Je vais te faire passer d'abord un test qui va te prendre quelques semaines. Puis après, on verra. Ainsi sont peut-être certains humains, mais pas le Seigneur. Faites tous vos efforts humains, mes amis, mes frères et sœurs. Faites tous vos efforts humains pour bien conduire votre vie. Mais quand on n'a pas de prise sur la réalité, quand on ne tient plus rien, comme cet homme qui voyait sa petite fille mourir devant lui, petite fille de 12 ans. Quand un enfant a 12 ans, c'est le bonheur d'un père, c'est la fierté d'un père, la fierté d'une mère. On n'y est pour rien, mais c'est la fierté quand même. Et quand il voyait cette petite fille mourir, Jaïrus, sa petite fille, il n'avait plus de prise là, il ne savait, pouvait plus tenir rien. Alors il est allé voir Jésus, « Viens vite, ma petite fille est à l'extrémité, impose-lui les mains et elle vivra. » Il faut dire ça pour votre enfant, il faut le dire. Viens, demandez. Je crois que Jésus nous attend là. Jésus nous a dit, viens au Seigneur, viens à lui. Et nous, nous lui disons, viens Seigneur. Il nous cherche plus qu'on le cherche. Il nous aime infiniment plus que nous l'aimons. Il nous suit pas à pas, année après année. Nos chemins sont remplis de sa présence. Il y a quelque chose en Dieu qui est indéfinissable. Présence qui ne crie pas, qui ne fait pas bouger la maison, mais qui est là quand je dors, quand je pense, quand j'ai peur, quand je pars, quand je reviens, toujours là. Recherchez le Seigneur et vous le trouverez. Amen. Priez, cherchez, invoquez-le pour votre santé, vos enfants, votre vie éternelle, votre entrée dans la maison du ciel, car un jour nous y rentrerons. Priez le Seigneur, c'est lui la clé, c'est lui la porte, c'est lui l'échelle, c'est lui le chemin, c'est lui le pont qui nous amène vers Dieu. Il n'y a que le Seigneur, il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui nous ait été donné par lequel nous puissions être sauvés. Dieu nous a donné qu'un seul nom, pas Abraham, pas Jacob, pas Moïse, pas Marie, pas Pierre, pas Jacques, tous ces personnages magnifiques de la Bible. Il nous laisse un seul nom, une seule personne, un seul chemin, une seule vérité, Jésus-Christ. Amen. Parce que Jésus, c'est lui qui s'incarne, c'est lui qui prend corps. C'est lui qui nous dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Prions le Seigneur. Pour nous qui crions à toi, Seigneur, le jour et la nuit, comme nous sommes rassurés de savoir que tu nous entends, que tu n'es pas comme ce juge, sans foi, sans loi, tu es un Père qui tremble comme un père, qui aime comme un père, le meilleur des pères, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, plus présent à nous que nous-mêmes. Et c'est pourquoi nous sommes vraiment pleins de hardiesse et de courage de t'invoquer dans cette journée, de te prier. Parce que, quelles que soient, Seigneur, les difficultés, il y a toujours en Dieu une parole, il y a toujours en Dieu une présence qui nous accompagne, un ordre qui vient remettre en place ce que le lion a dévoré, cassé, le figuier cassé. Nous t'appelons tous cet après-midi. Nous avons tous à la maison des chagrins qu'on ne peut emmener nulle part. Des enfants qui nous occupent l'esprit et qui nous font peur, des situations professionnelles, familiales, qui semblent être brisées comme le figuier. Nous t'invoquons parce que dans le ciel, Seigneur, nous redisons comme Josaphat, tu as dans ta main tout le pouvoir, toute la force. Alors nos yeux sont sur toi. Amen. Interviens, Seigneur. Amen. Tenons-nous devant le Seigneur. Vous n'êtes pas dans le cabinet d'un magistrat humain. Vous êtes sur le seuil de la maison de votre Père. Il connaît vos défaillances, vos péchés, vos chutes, vos doutes. Y a-t-il un père qui rejetterait son fils parce qu'il a commis une faute ? Dieu ne nous rejette pas. Dieu nous cherche pour nous sauver, nous amener dans la vraie vie, à son ombre, dans son calme, dans sa sécurité. Il prend sur lui nos fautes, nos erreurs, nos souffrances, nos maladies, même notre mort. Il se charge de tout. Il s'occupe et s'occupera de tout. Je n'ai rien à craindre. Mes destinées sont dans ta main, Seigneur.